L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Volant, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Volant. Volant, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Volant et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Je suis avec Patricia Louisor. Et Patricia, je l'ai rencontrée chez elle. Elle m'a beaucoup surprise parce qu'elle a 57 ans et on va parler aujourd'hui des femmes de plus de 50 ans. C'est vrai que c'est un podcast marketing, mais je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir le point de vue des consommateurs ou en tout cas d'avoir une vision différente des consommateurs parce qu'on pourrait se dire... Alors Patricia a fait plein de choses évidemment, mais justement on va en parler un petit peu après, c'est pour ça que je dis rien. Mais on pourrait se dire une femme de 57 ans...
56.
Elle, 56 ans, pardon. On pourrait se dire une femme de 56 ans, elle, c'est une femme du troisième âge quasiment. Mmh. T'attendais où?
Bah, je suis encore au premier âge, je pense, moi.
Ouais.
Et puis je crois que je serai au premier âge jusqu'à la fin. Parce que c'est pas que dans la tête, c'est un style de vie, en fait, l'âge. C'est vraiment un style de vie. C'est-à-dire qu'on peut être, je pense, vieux, pas mature, mais vieux, à 35, mais vraiment vieux. Et on peut être jeune à 80, dans la tête. Il y a une grande dichotomie entre le physique et ce qu'on pense.
Ça, c'est sûr.
Donc, ouais.
Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est que tu es devenue DJ à 50 ans.
Mm-hmm.
Tu peux en parler un petit peu?
Ouais, je suis... Quand je dis que je suis du premier âge jusqu'à la fin, c'est que je suis une fêtarde. Je pense que la fête, la vie sociale très active, les amitiés qui se nouent à n'importe quel âge participent encore au fait de rester dans le premier âge. Et je suis une grande fêtarde. J'ai toujours fait beaucoup de fêtes, énormément de fêtes, depuis toujours. Et je fais donc des grandes fêtes chez moi, des grandes soirées où on est 60, 80. Et je mets la musique. Je mettais la musique. Je ne mixais pas, je mettais la musique. Et il s'avère que... ces soirées étaient toujours réussies. Donc ça fait 40 ans que les soirées sont réussies. Et j'étais à New York un soir et j'étais avec une amie qui m'a présenté un patron de boîte de nuit qui est assez coté à New York, me présentant comme étant fashion designer parce que c'était mon beau job et DJ. Et moi j'ai dit oui, parce que je dis toujours oui avant de... Bon, j'ai peut-être une coupe de champagne de trop, mais bon. Et j'ai été bookée pour mixer à New York pour la Fashion Week. Et ça a commencé comme ça.
Du coup, tu penses quoi du... Parce qu'en fait, les marques de beauté, pas que les marques de beauté, d'ailleurs, toutes les marques continuent de cibler les femmes de plus de 50 ans comme des femmes qui sont, pas exactement du troisième âge, mais enfin, qui s'en approchent en tout cas. Toi, tu penses quoi de ce positionnement et des messages qu'on envoie en tant que marketeur, des messages qu'on envoie aux femmes de cet âge-là?
Mais... le problème, c'est que la société passe son temps à complexer la femme, pour ouais. tout. Pour son poids, pour sa taille, pour sa couleur, pour sa texture de cheveux. Et donc, quand on arrive à 50 ans, on est complexé par tout, c'est-à-dire et son poids, et sa taille, et sa couleur, et la complexion des cheveux. Mais en plus, par... t'es maintenant sur un terrain descendant, t'es vieillissante, t'es plus baisable, t'es plus désirable. Donc c'est ce qu'il y a, je pense, de plus négatif à envoyer comme message aux femmes. Parce que c'est justement quand t'as 50 ans que tes enfants sont élevés, que t'as un pouvoir d'achat qui est supérieur, que tu es encore belle, mais parfois même encore plus belle qu'à 40 ou qu'à 30, parce que tu es assumée, tu sais ce qui te va, ce qui te va pas, tu fais... Tu fais bon cœur avec, en général, ton corps, parce que tu es plutôt réconcilié avec toi-même. Et on t'envoie des messages qui ne correspondent absolument pas à ce que tu ressens intérieurement. Donc, wrong, wrong, archi wrong.
Et alors, du coup, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que souvent, ces messages-là, ils sont envoyés par des femmes. Enfin, ce qui est étonnant, c'est que des groupes comme L'Oréal ou Estée Lauder, ils ont tendance à envoyer des... Enfin, pas que, ça peut être Pierre Fabre, comme ça peut être n'importe qui. C'est souvent des femmes qui sont au marketing de ces boîtes-là. Mmh. Et c'est donc des femmes qui envoient des messages négatifs aux autres femmes.
Mmh. Alors ça, ça part du principe qu'on est dans une société patriarcale.
Ouais.
Et dans la société patriarcale, historiquement parlant, et préhistoriquement parlant, la femme qui va s'en sortir sera celle qui fera le meilleur mariage. Celle qui fera le meilleur mariage sera la plus jolie. Ce sera celle qui sera désignée par le chef du village, le plus fort, le guerrier, le blabla. Donc maintenant, c'est le mec qui fait de l'argent, donc le chef d'entreprise, etc. Et donc, on a comme intérêt à se tirer un peu dans les pattes en tant que femme pour pouvoir gagner gros lot.
D'accord.
Et sans s'en rendre compte, je pense que ces marques-là, et donc ces femmes-là, participent aussi à ça. C'est-à-dire qu'au lieu de casser, il y a un moule à casser maintenant. C'est un discours et c'est une posture, mais vraiment d'arrière-garde. Vraiment, vraiment d'arrière-garde. On n'est plus là-dedans. Et quand on continue à vous envoyer ce genre de messages, ils sont perçus de manière encore plus négative par les femmes, et pas que par les femmes de 50 ans, par les femmes qui ne se retrouvent plus dans une image qu'on leur tend et qui ne ressemble pas. C'est-à-dire, on a tendance à demander aux femmes de s'adapter à un moule, alors que, puisque c'est nous qui achetons le produit, on devrait s'adapter à nous, ce serait plus logique. Et là, on est dans une logique qui est complètement fausse et qui est en train de s'avachir, en fait. Parce que il n'y a plus de fidélité à un produit, il n'y a plus... parce qu'on n'a plus rien à foutre, quoi, de vos préceptes. Mais non, mais c'est vrai.
Comment ça? La fidélité client n'existe pas?
Ah, ben ça n'existe de moins en moins, bien sûr. Bien sûr. Moi-même, hein, moi je vole d'un produit à l'autre. Hein,
ouais. Et qu'est-ce qui te fait rester avec une marque, alors, du coup?
Qu'est-ce qui me fait rester avec une marque? Ce serait le fait de me sentir bien dans ses codes. Mais je dirais dans mes codes. Dans mes codes que eux auront compris.
Ok.
Donc rarissime.
Et du coup, aujourd'hui, toi, t'es DJ, mais tu fais quoi d'autre?
Alors, je suis consultante, je suis prof et j'enseigne le thème de l'amour. Okay. À la School of Life, ouais, ça fait rire, mais c'est...
Non, ça ne fait pas rire du tout, c'est même un sujet hyper d'actualité.
La School of Life, c'est une école qui a été montée par un philosophe moitié anglais, moitié suisse, qui s'appelle Alain Botton, en Angleterre, il y a quelques années, ouais. Et qui s'est ouverte dans plusieurs pays du monde, dont Paris, donc je suis la prof, j'enseigne deux cours à la School of Life. J'ai également cofondé un média féministe qui s'appelle le Salon des Dames, qui marche très bien maintenant, où on est à 150 000 followers, donc c'est quand même devenu un gros truc en quelques mois. Et puis, toujours, je suis historiquement styliste de mode, donc j'ai dessiné des vêtements pendant des années. J'avais ma marque, je suis entrepreneuse, donc j'avais ma marque.
D'accord.
Et j'ai vendu partout dans le monde. Voilà.
Et alors, du coup, justement, la position de la femme, comme vous avez ce mouvement féministe, je trouve ça intéressant, il y a plein de manières d'envisager. Le féminisme. Mm-hmm. Toi, c'est quoi ta manière d'envisager le féminisme?
Alors, c'est une manière qui est d'abord complètement inclusive homme-femme. On n'y arrivera jamais sans les hommes. Donc, on est 50% de la planète. Maintenant, il va falloir qu'on se réconcilie les uns les autres. Donc, homme-femme. En plus, il y a vachement d'hommes féministes. On s'en rend compte avec le Salon des Dames. Il y a vachement d'hommes féministes et qui sont actifs et qui commentent et qui laissent des messages et qui ont un point de vue en plus... décalé par rapport à la femme féministe, c'est-à-dire que c'est pas, il n'intègre pas les points de vue sexistes du quotidien, mais les comprend, ou en tout cas a envie de les comprendre et a envie de défendre, d'être vraiment antisexiste. Donc sa première chose, c'est intergénérationnel pour moi, c'est intersectionnel, c'est un mouvement qui est beaucoup plus global, en fait, que le mouvement segmenté qu'on a pu voir. En tout cas, tel que je le perçois. Et évidemment, il y a autant de féminisme que de mouvements politiques.
Voilà, ouais.
Dans la gauche, il y a X gauche, dans la droite, c'est pareil. Mais pour le féminisme, c'est exactement la même chose. Et tel que nous l'entendons, donc Céline et moi, c'est un mouvement qui est vraiment large et dans lequel on embrasse tout le monde de venir rejoindre pour enfin avoir un mouvement qui intègre les hommes et les femmes.
Et du coup, pour toi, le succès, vous aurez réussi quand quoi?
Quand on aura réussi à faire des partenariats avec des marques et arriver à changer l'image de la femme, de la femme dans la manière de communiquer.
Ouais. Et justement, moi, c'est marrant, j'avais une discussion comme ça avec une directrice marketing où je disais, pour moi, et ça rejoint un peu ce que tu disais, une femme de 40 ans, elle est beaucoup plus épanouie et beaucoup plus sereine, finalement, qu'une femme de 20 ans, même si, enfin, ça dépend évidemment, hein, chacun est différent, mais même si la presse, les médias, les marques, etc., t'envoient une image qui est totalement différente. Toi, t'es d'accord avec ça?
Absolument, absolument. J'échangerai pas du tout, mais alors. La nature est bien foutue quand même. C'est-à-dire que tu as le corps, la fraîcheur, etc. à 20 ans, parce que tu n'as pas la maturité, tout simplement. Si tu étais mature, belle, etc. Et donc, à partir de 40 ans, on perd en fraîcheur. Oui, on perd en fraîcheur. Mais on gagne tellement dans autre chose. C'est-à-dire qu'on gagne en assise, on gagne en maturité, on gagne surtout en aplomb. Et quand je parle d'aplomb, je parle d'avoir les deux pieds ancrés dans le sol. En général, évidemment, chaque individu est différent, mais si on doit faire une généralité, en général, c'est ça. Et je pense que jusqu'à, je sais pas, 70 ans, tant qu'on est en bonne santé, on gagne encore plus. C'est-à-dire que quand on devient grand-mère, la nature est bien foutue. On devient grand-mère, donc on a un sens du partage des expériences différentes, puisqu'on n'est pas parent, donc on n'est pas censeur, on n'est que dans la sagesse. Moi, j'aime cette idée de penser qu'on devient de plus en plus sage, de plus en plus rôle modèle pour les plus jeunes. J'aime bien cette idée. D'ailleurs, ça commence à se faire, d'ailleurs, puisque les amis de mes enfants commencent à se référer à moi pour avoir des conseils.
Et justement, tu me parlais d'intergénérationnel, et ça, je trouvais que c'était une idée aussi hyper intéressante que les marques n'ont pas forcément en tête, ou les marketeurs n'ont pas forcément en tête, le mélange des générations. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je vois de plus en plus. Alors, c'est peut-être parce que je deviens plus vieux, moi aussi, et du coup, je m'attache à la jeunesse. mais cela dit, l'amplitude de mes amis, de l'âge de mes amis, on va dire, est de plus en plus large. Et c'est vrai qu'on a tendance à classer les gens par millennial, Gen Z, Gen Z, Gen Y, etc. Moi, je fais partie de la génération Y, a priori, selon mon âge. Je ne me sens pas spécialement génération Y. Est-ce que toi, tu as toute une théorie, je crois, aussi, sur cette... sur cet aspect intergénérationnel.
Alors, pour commencer, j'ai monté le Salon des Dames avec une associée qui a 26 ans. Donc, elle a exactement 30 ans de moins que moi. Et ça se sent comme ça ne se sent pas. C'est-à-dire que ça se sent dans les références. J'ai évidemment beaucoup plus de références parce que j'ai vécu 30 ans de plus qu'elle. Mais au niveau du travail, on a des échanges qui sont, je pense, égaux, quoi. Alors évidemment, j'ai eu à apprendre des choses du fait que j'étais là en 70, 80, 80, etc. Et elle m'apprend des choses où c'est une requête sur tout ce qui est tech, sur tout ce qui est digital. Donc j'ai une associée qui a 26 ans. Et j'ai deux filles qui ont 19 et 20 ans, et je vois avec les amis de mes enfants qu'il y a un contact qui est hyper simple, hyper facile, qui est assez décomplexé, où le tutoiement est très rapide. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, je n'aurais jamais osé tutoyer les amis de mes parents. Maintenant, le tutoiement se fait très facilement. Et avec Internet, on a des échanges qui sont... parfois assez horizontaux, à savoir, ils ont écouté les musiques, ben, ils connaissent Chic, quoi. Alors que moi, le Blues Mariano, je ne connaissais pas pour mes parents. Donc ça...
Bobby Lapointe.
Ou Bobby Lapointe, voilà. Ils ont vu des films que je considère iconiques, dont on peut parler, parce qu'ils ont une ampleur que je n'avais pas, moi, à leur âge. Et puis surtout, il y a une espèce de merge où on danse sur la même musique. C'est-à-dire que moi, je danse aussi bien sur l'électro que eux dansent sur le disco. Enfin, il y a un truc qui est en train de se passer. Je ne vois pas d'études, je n'entends rien là-dessus. Mais dans la vraie vie, parce que malheureusement, ce qu'on nous tend comme message, pas la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a un truc qui est en train de se passer. C'est une sorte de merge de génération qui, je trouve, extrêmement rassurant.
Et du coup, c'est intéressant parce que les marques, les messages qu'elles envoient aux femmes, en particulier les femmes de plus de 40 ans, c'est pas ces messages-là, en fait. C'est des messages, effectivement, sur on peut vous empowerer, ou vous êtes une femme mature, on va vous vendre de la crème anti-ride, etc. Toi, t'as envie de dire quoi à ces marques-là ?
Ben, la crème anti-ride, oui, parce que ça, on pas se leurrer non plus. Je veux dire qu'on n'a pas non plus le corps qu'on avait avant, on n'a pas la peau qu'on avait avant. Donc oui, la crème anti-ride, mais pas la crème anti-ride en surface. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de surfaçage de la femme où on n'est qu'enveloppe.
Oui, qui réduit à son physique.
Mais voilà, on n'est qu'enveloppe. Ben, si on était qu'enveloppe, on serait hyper creuse, quoi. Et ce que j'ai envie de leur dire, c'est le message qu'on devrait envoyer aux femmes, c'est justement maintenant vous êtes hyper puissante, vous avez accumulé tellement d'expérience que soyez des leaders, quoi. Or, c'est pas du tout ce qu'on envoie, c'est justement on est en phase descendante, alors qu'on devrait justement être en phase ascendant d'une autre partie de la vie. Et c'est pas ce que j'entends. C'est-à-dire que la phase descendante, c'est la phase de la fraîcheur, c'est la phase de tout ça. Mais ça, à la limite, on s'en fout, quoi. On l'a eu. Enfin, des fois, j'ai envie de dire, mais je m'en fous, je l'ai eu, ça. Voilà. Maintenant, ce que j'ai envie d'entendre, c'est que vous êtes sur une phase ascendante d'une autre partie de votre vie. Et c'est pas ce qu'on nous envoie comme message.
Ouais. Tu penses quoi de cette expression « vieille fille » ?
C'est une expression du 19e siècle, quoi. Vieille fille, ça veut rien dire. On fait ce qu'on veut, quoi. Si on veut rester... Alors, vieille fille, c'était l'expression d'être restée célibataire. Ouais. Ben non, pas vieille fille, on fait ce qu'on veut. Si j'ai envie de rester célibataire parce que ça me plaît, j'ai envie de rester célibataire, c'est tellement condescendant, c'est tellement judgmental, on dit en anglais, c'est tellement que... C'est des expressions qui ne m'intéressent plus. Et encore une fois, c'est une expression d'arrière-garde. Ce dont j'aperçois maintenant, c'est qu'il y a des femmes qui sont volontairement célibataires. Il y a des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Il y a des femmes... On sort de ces codes où, pour être épanouie, il faut avoir un mec, deux enfants, blablabla. C'est plus ça, quoi. C'est plus ça du tout. On peut ne pas avoir d'enfants. On a fait un dîner hier soir ici avec une femme qui n'a pas voulu avoir d'enfants. Voilà. Il y en a même deux. Voilà.
Parfaitement. Et du coup, il y a des marques que tu connais qui intègrent ces codes-là, qui travaillent de manière intelligente.
Ouais, alors, il y a la marque Dove, évidemment, que tout le monde connaît, parce que c'est la marque de référence. Mais il y a également, je pense que c'est Soutien-Gorge, je vais dire la marque, mais j'ai peur de dire la marque, parce que je ne suis pas sûre que ce soit, donc je ne vais pas dire de marque. Mais j'ai récemment vu une campagne d'affichage dans Paris, pour des soutiens-gorge, où enfin, on n'était pas dans la séduction. On était vraiment dans l'auto-séduction, donc la fille se séduisait elle-même.
Génial.
Et on n'était pas dans des codes du cheveu ondulant, de la poitrine généreuse, etc. Il y avait des femmes qui n'avaient pas de poitrine du tout, mais qui avaient un soutien-gorge en dentelle. Ouais. Donc ça veut dire qu'en général, c'est quand tu n'as pas de soutien de sein, mais pas de soutien-gorge dentelle. Enfin, ça cassait totalement les codes. Les filles n'étaient pas maquillées. Certains étaient androgynes et j'ai trouvé cette campagne hyper bien parce qu'enfin les femmes n'entraient pas dans des moules, mais je voyais les femmes de la rue, des femmes que je côtoie, des femmes, voilà, des plus rondes, des moins rondes, des androgynes, des cisgenres, des homos, enfin sur une campagne de pub. Et j'ai trouvé cette campagne de pub géniale. Les filles souriaient pas aussi. Ah ouais, il n'y a pas ce sourire niais là des filles. Donc c'était vraiment bien, c'était voilà, des fois je suis de bonne humeur, mais des fois non, donc des fois j'ai un sourire, des fois j'ai pas de sourire. Donc vraiment j'ai trouvé cette campagne vachement bien. J'avais l'impression d'être comprise en fait.
C'est marrant cette histoire de sourire, il y a France Info qui a fait un mini reportage sur les mecs qui draguent les filles et qui leur dit bah, tu pourras sourire quand même.
Ouais, non, pourquoi je sourirais ? Je sourirais, je souris quand si j'ai une raison de sourire.
C'est ça.
J'ai pas une, voilà,
j'ai c'est
pas
marrant qu'on demande aux femmes de sourire et pas spécialement aux hommes.
Ben ouais, parce que ça rentre dans le cadre encore. Sois belle et tais-toi, sois belle, sois gentille, sois jolie, sois délicate, sois fragile. Fuck you.
Et ce podcast, il s'appelle Vlan. Mm-hmm. Et j'aimerais te demander à qui ou à quoi tu aimerais claquer la porte aujourd'hui ?
Au regard des autres, parce que personnellement, j'en ai rien à foutre. Donc j'aimerais que toutes les femmes du monde claquent la porte au regard des autres. Pourquoi ? Parce que quand on a 50 ans, le regard des autres ne correspond plus à ce qu'on ressent à l'intérieur. Et ça passe du jour au lendemain. Alors, j'ai la chance d'être encore un peu jolie et d'avoir encore un regard... ce regard, en fait, ne me nourrit pas. Il m'a nourri quand j'étais plus jeune, mais ça ne me nourrit pas, ça ne me nourrit plus du tout. Donc, j'aime mieux maintenant que ce soit une femme qui me dise que je suis jolie que ce soit un homme. Ça me fait vachement plus plaisir quand c'est une femme qui me dit que je suis jolie que c'est un homme. Parce que je sens en elle, je sens dans le regard de la femme qui me dit « je suis jolie », un jugement positif et valorisant, de bienveillant de qui je suis. Donc je suis reconnue pour qui je suis. Et je ne suis pas un autre objet à baiser dans les 4 secondes qui va suivre. Donc,
Tu peux dire à une femme qu'elle est jolie sans avoir envie de la baiser. Hein.
C'est pour ça.
T'es un homme, je veux dire.
Oui, mais c'est souvent pas comme ça que la femme le reçoit. Parce qu'on est tellement, on a tellement été éduqué à t'es jolie, slash, je vais te baiser dans 3 minutes, qu'on a du mal à faire la part des choses.
C'est clair.
Donc, je fais un big vlan au regard des autres et surtout au jugement. Je t'en ai rien à foutre.
Génial. Merci beaucoup.
Je t'en prie.
Ciao.
Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.